France Inter, le 7-9.
On attaque avec la revue de presse. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Avec ce matin la fin du bottin.
Notre bon vieil annuaire qui trônait sur le guéridon près du téléphone gris à cadran, nos doigts qui glissent le long des noms inscrits pour s'arrêter enfin sur le bon. C'est terminé. La dernière livraison des pages blanches vient de s'achever. Les pages jaunes suivront dans une année. Et c'est le Figaro qui nous raconte leur histoire ce matin. L'homme qui a inventé le bottin s'appelait Bottin, forcément, hein,
Monsieur,
Sébastien, ancien abbé, devenu entrepreneur après la Révolution française. C'est lui qui imagine le premier annuaire en 1796. Il se développe et sert petit à petit à retrouver un ami, à repérer un commerce ou à tout autre chose, s'amuse le Figaro. Posé sur la tête, il aidait les jeunes danseuses à se fabriquer un port altier. Un coup de bottin pouvait aussi, paraît-il, aider à obtenir des aveux en garde à vue. Il a même servi à isoler une toiture et certains se souviennent aussi, bien sûr, de jeux de gamins dans des cabines téléphoniques, elles aussi disparues, appelées au hasard, racontaient des histoires. En 2007, 57 millions d'annuaires, pages jaunes et blanches, étaient encore distribués, mais le bottin a ensuite décliné, grignoté petit à petit par le net. Aujourd'hui, ses derniers exemplaires se vendent déjà sur cette toile qui lui a fait la peau. 9 collecteurs sans limite de temps, 10, 35, 50 euros sur des sites de petites annonces.
Le vieux téléphone et le papier de retour dans les hôpitaux.
C'était en novembre dernier au CHU de Rouen et c'est le journal La Croix qui revient sur cet épisode. En ce mois de novembre, donc, les visiteurs de l'hôpital sont accueillis par un message incongru scotché sur la porte d'entrée. Système informatique défaillant, délai très important. Tous les ordinateurs du CHU sont touchés. La veille, une cyberattaque mettait hors service le net, les logiciels et les dossiers des patients. La paralysie est quasi totale. Une rançon est demandée pour récupérer les données. Il a fallu attendre 10 jours pour pouvoir envoyer à nouveau des emails et 5 de plus pour utiliser Internet. Comment faire? Le téléphone, donc le papier. Il a aussi fallu faire sans le Vidal, cette bible des médecins, personne n'a réussi à mettre la main sur un exemplaire imprimé parce qu'aujourd'hui, tout le monde se sert de l'application. L'exemple est violent, mais ce genre d'attaque devient fréquent. Attaque multipliée par 3 entre 2017 et 2018 et les hôpitaux restent mal protégés, développe La Croix. État, grands groupes pharmaceutiques et autres entreprises qui sont intéressées par ces données qui permettraient de bâtir une stratégie économique. Les technologies, le futur, à quoi ressemblera notre avenir? Le Huffington Post ne répond pas à cette question ce matin, mais le site a retrouvé des documents vieux de 100 ans où nos ancêtres imaginaient l'an 2020. Une pièce de théâtre qui racontait l'histoire d'un certain Benjamin Pirouette, longtemps endormi et réveillé donc en 2020. Il découvre des policiers armés d'objets qui ressemblent étrangement à des tasers, un téléphone équipé d'une caméra qui permet de se voir en conversant. Des escalators plats ont squatté le bitume de Paris, on n'y est pas encore, et ce sont les femmes qui demandent la main de leurs hommes. Un homme qui se vantait d'aimer et qui se vante toujours d'aimer les très jeunes filles et les très jeunes garçons à la une de Libération ce matin, Gabriel Matzneff, écrivain, photographié en noir et blanc et ce mot en rouge, pédophilie. En dessous, cette phrase, connue pour ses écrits, racontant ses ébats avec des enfants et des ados, l'écrivain n'a jamais été inquiété. Le mot ébat fait réagir les féministes sur les réseaux ce matin. Comment peut-on parler d'ébat? À l'intérieur du journal, un édito de Laurent Geoffrin, passionnant, qui raconte que Libération, à cette époque, accueillait en son sein un certain nombre de militants qui revendiquaient leur goût pour les relations sexuelles avec des enfants et qui pensaient qu'il fallait dépénaliser ces comportements au nom de la libération sexuelle.
Le journal Le Parisien aujourd'hui en France, Julie, choisit de donner la parole ce matin en une aux conducteurs de train, de métro, de bus, aux agents d'accueil qui ne font pas grève contre la réforme des retraites.
Pas grève, ou plutôt, pour la plupart, plus grève. Ils sont de plus en plus nombreux à reprendre le travail. Pourquoi? À cause de l'argent. Je gagne 2000 euros net, je paye 700 euros de loyer. Tenir à moi, je ne peux pas, raconte Eric, conducteur de train en région parisienne. Il a fait grève une semaine, mais aujourd'hui, il conduit et certains collègues le traitent de jaune. Je n'écoute pas, dit-il. Parmi ceux qui n'ont pas fait grève du tout, l'argument financier revient aussi. La grève, c'est pour les riches, lance Karim en Seine-Saint-Denis. Les pères de 4 enfants, endettés, interdits bancaires. Il ne pense pas à l'avenir, à sa retraite, seulement à la fin du mois qui vient. L'essentiel, c'est de participer. Saviez-vous que cette expression célèbre n'a jamais été prononcée par qui l'on croit et où l'on croit? Elle est historiquement attribuée à Pierre de Coubertin, fondateur du Comité international olympique. Sauf que non, en fait, il n'a jamais dit ça, raconte l'équipe. L'homme qui s'en est approché le plus est évêque, Ethelbert Talbot. En plein jeu de Londres en 1908, agacé par les rivalités exacerbées et les contestations de résultats. Il monte en chaire et sermonne. Les jeux en eux-mêmes sont meilleurs que la course et le prix. Dans l'assistance, Pierre de Coubertin écoute alors. Un peu plus tard, lors d'un dîner officiel, il relaie l'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Ce qui deviendra donc, pour l'histoire et la légende, l'essentiel, c'est de participer. Des propos, écrit l'équipe, des propos attribués au seul baron français qui ne les a donc pas réellement prononcés.
Merci Julie Pietri pour cette revue de presse.